Bonsoir à tous. Merci, merci d'être venus. Merci d'avoir été patients parce que nous avons pris un tout petit peu de retard. Oh. C'était la presse. La presse ne voulait pas lâcher Patricia McDonald. On n'a pas toujours cette chance d'avoir un auteur de cette trempe à Bordeaux. Donc, nous n'allons pas nous plaindre. J'espère que vous non plus. J'espère que vous serez indulgent. Et je suis ravie d'avoir qu'on m'ait demandé de vous poser quelques questions.
Oui, bien sûr.
Et je suis ravie aussi que vous vous exprimiez avec autant d'aisance en français.
Oui, je sais.
Mais oui, ça simplifie la tâche de tout le monde.
Oui, oui.
Sauf la vôtre. Et si vous êtes ici, j'imagine parce que vous avez plein de questions à poser. Alors, encore être un peu plus patient, parce qu'au début, je vais essayer de poser quelques questions. Si vous souhaitez rebondir, faites. Hein. C'est pas juste. Nous avons notre petite conversation et après, au bout d'une demi-heure, nous réalisons que nous avons un public. Hein. Non, ça va pas être comme ça. Si vous avez des choses à dire, des remarques à faire, mais je vous en prie, faites. Parce que on ne pourra pas parler si longtemps que ça parce que vous ne nous ferez pas le plaisir de dormir à Bordeaux ce soir.
Non, malheureusement, non.
Donc on a cet impératif-là, vous savez, le dernier train qui va à Paris. Et avant, il y a peut-être des gens qui n'ont pas eu le temps de faire dédicacer leur livre à la séance de dédicace parce que, peut-être qu'ils travaillaient, ces gens-là. Et donc, on va garder une toute petite plage, mais ce sera une petite plage limitée parce que quand même, les questions pour tout le monde et surtout vos réponses, c'est ce qui nous importe.
Ok.
Donc, le livre une nuit sur la mer, c'est votre 15e. Moi, quand je l'ai eu, c'était encore des épreuves non corrigées. Ça veut dire qu'il est paru juste il y a deux semaines.
Oui.
Et c'est votre 15e traduit en français. On dirait qu'il est un peu dans la lignée des autres parce qu'il y en a une femme qui cherche la vérité. Cette femme, c'est une mère. Elle cherche la vérité à propos de sa fille. Sa fille qui a disparu en mer, donc lors d'une croisière. Et ce livre entier va être vu, à part peut-être 4 ou 5 pages, avec le regard de cette mère, avec la psychologie de cette mère, avec l'intensité et la force de sa colère, sa résilience aussi, et énormément de sentiments humains. Donc, c'est la règle du thriller psychologique, normalement, il y a de la psychologie dedans, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, il y a du suspense, c'est dans la collection spéciale suspense, et cette femme-là, comment vous lui avez fait mener une enquête alors que évidemment c'est une femme qui n'est pas une enquêtrice, qui est juste une femme à la recherche de la vérité.
C'était un problème avec cette intrigue, c'est que la mère était si triste, si plus que triste,
abattue.
Abattu par la disparition de sa fille. Et souvent, on ne peut pas bouger quand on est dans un état comme ça, un état d'esprit. Mais elle doit le faire parce que la police ne s'intéresse pas. On dit que c'était un accident. Son gendre, toujours une relation intéressante. La belle-mère et le gendre, n'est-ce pas? J'ai joué avec cela un peu, avec plaisir, dans le roman. Mais le gendre est overwhelmed.
Bouleversé.
Bouleversé par la perte de sa femme. Et il a 2 enfants, lui. C'était le devoir de la mère de trouver la vérité, et en tant que mère, elle ne pouvait pas cesser sans savoir pourquoi et comment sa fille est disparue.
Mais évidemment, ce sont les règles du genre. Vous nous emmenez là où il y a la croisière. Ouais, quand même. C'est, donc c'est pas un roman noir puisque là on est un petit peu au soleil. De la croisière, dans l'exotisme un tout petit peu de la croisière, avant de revenir à Philadelphie, qui est le lieu de l'intrigue.
Très peu de soleil dans ce roman-ci. Et en fait, j'ai fait une ébauche avec, qui se passait sur le paquebot, mais enfin, j'ai jeté cette version dans la poubelle parce que c'était trop...
La croisière s'amusait?
Oui, je ne voulais pas avoir une atmosphère gay, plaisante pour les gens. Vous avez remarqué quand vous lisez le roman qu'il n'y a pas des scènes en bateau, parce que j'ai voulu éviter cela.
Oui, oui, c'est des scènes de commissariat, des scènes de pension, de petit hôtel
dans une
île.
Une île. Et j'ai, à ce moment-là, quand la mère est venue à St. Thomas, St. Thomas, aux îles Vierges, aux États-Unis, j'ai aimé bien le contraste entre l'état d'esprit de la mère et la beauté de l'île, mais elle trouvait l'île, elle est dans un cauchemar et l'île fait partie de ce cauchemar.
Absolument. Et il semble que dans vos livres, vous changez de ville, vous changez de pas complètement, ça se passe en général aux États-Unis, sur la côte Est, mais vous changez un petit peu d'état ou de taille de ville. Et là, Philadelphie, pour moi, bon, ça commence avec 30-something. Pour moi, c'est des références télévisuelles.
Ah oui?
Donc, 30-something, et puis après, Cold Case.
Ah, OK. Okay.
Ça s'appelait Nos plus belles années, je crois, 30-something. À la fin des années 80. Mais c'est une ville avec des stratifications sociales.
Comme toutes les villes
que vous montrez bien, parce que quand on voit Gladwin, c'est la banlieue chic.
Oui, c'est vrai.
Après, on a Schuylkill, qui est à la fois la rivière et puis l'autoroute, le côté un petit peu urbain menaçant.
Oui.
Il y a toute l'eau dans l'eau qui peut se confondre un petit peu dans le décor et dans la tête de la protagoniste principale. C'est vraiment intéressant votre façon de montrer cette ville, de nous créer une géographie, parce qu'on... Qui est allé à Philadelphie?
Bon, alors...
voilà. Donc, vous avez retrouvé votre géographie, moi, j'en ai découvert une.
Normalement, j'écris d'une petite ville à la côte Est, et je change l'état.
Mm-hmm. Il y a eu le Maine.
J'ai passé toute ma vie dans la côte Est du nord des États-Unis, Boston, et New York, Philadelphie, New Jersey, Connecticut. Ma fille est à l'université de New Hampshire. Eh bien, je connais très, très bien cette partie du monde. Mais normalement, je choisis une toute petite ville parce que j'aime bien cela comme scène pour mes romans. Mais cette fois, pour les exigences de l'intrigue, j'ai dû avoir une grande ville. Ça ne marche pas dans une petite ville. J'ai habité Philadelphie 7 ans. Et c'était un plaisir pour moi de décrire un peu les quartiers différents de Philadelphie.
Mm-hmm.
Oui. Plus que j'ai imaginé, j'ai aimé bien écrire de Philadelphie.
Je regarde dans la salle, non? Les Philadelphiens?
Non. Non.
Et une chose aussi qui pour moi pas spécifique à Philadelphie, c'est l'importance de la pratique religieuse et surtout de l'Église au quotidien dans la vie des personnages. Et c'est comme si la religion était en fond, quelque chose de présent, pas d'omniprésent, mais qui est là, qui sert un petit peu de soutien, que ce soit Le fils de la disparue qui va dans son école maternelle, mais c'est juste dit comme ça, c'est pas souligné. Mm-hmm. Ou ben ses grands-parents qui sont missionnaires quelque part en Indonésie, ou bien le fait que ça peut rythmer un petit peu le dimanche, ou que ben les alcooliques anonymes, souvent ça se passe dans des presbytères, on dit pas presbytère pour un temple, mais dans des parties, des salles offertes par des, mm-hmm. par des temples. C'est, qu'est-ce que ça veut dire l'Église? Est-ce que c'est les gens qui ont besoin de ça, ou c'est un vécu, une place comme ça de l'Église, ou c'est une peinture des États-Unis, quelque chose qui est représentatif pour vous?
Surtout, je pense à l'intrigue. Et malheureusement, de nos jours, souvent, quand on a un homme comme le gendre de Shelby, qui est religieux, qui était élevé dans une façon religieuse, on le suspecte. Mais c'est pas nécessairement de la vérité, je ne vais pas dire. Mais... oui, c'était un choix
délibéré, quoi.
Délibéré pour mettre un peu de suspicion sur lui. Et chez nous, je ne sais pas, ici, on me demande toujours pourquoi pas écrire de la France. Je ne connais pas assez la vie quotidienne. Pour moi, ça, c'est la base de tous mes romans. Donc, je dois demander. Chez nous, beaucoup des réunions des alcooliques anonymes se passent dans les églises. C'est le cas souvent, très, très souvent. Mm-hmm. C'est normal, c'est complètement normal. Et je choisis toujours les choses qui sont vraisemblables à mes lecteurs. Et c'est pour cette raison simplement qu'elle était là.
Oui, parce que en contre-champ, on a aussi de la violence, puisque la violence, c'est ce qui ouvre le livre, c'est le prologue qui ouvre le livre. La violence, on la trouve justement sur l'autoroute, de la violence un peu aveugle. Il peut y avoir une peur de la ville, ce qui explique aussi pourquoi vous avez choisi une grande ville.
Ah oui,
parce
oui.
que cette peur-là n'existe pas de la violence aveugle dans un village, quoi, ou dans une petite ville, pas à ce point.
Oui, je ne sais pas encore ici, mais chez nous, les petites magasins comme ça qui sont ouvertes 24 heures par jour, c'est très dangereux pour les gens qui travaillent là, les heures très tard dans le soir. Et ça fait pas la peur, ça fait l'inquiétude, un peu d'angoisse quand on rencontre cet jeune homme très ambitieux et tout cela qui travaille seul dans un de ces magasins très très tard. Aussi chez nous, c'est la vie normale, on s'inquiète de cela.
Oui,
oh, bien sûr.
Oh, oui, non, mais ça n'a pas changé. Si on a oublié le lait, on attend parfois le lendemain, quoi.
Oui. Grande ville, petite ville, n'importe. Les magasins qui sont ouverts 24 heures par jour.
Oui. Mais après ça, je dirais que c'est une violence qui est un peu intemporelle, mais il y a des choses comme ça que vous avez aussi glissées, qui sont des références très, très 21e siècle, des noms de designers... je suis pas très férue en vêtements gothiques et en tête de mort, mais Ed Harry et Christian Audigier, comme ça sert en plus dans l'intrigue. Attention, c'est pas innocent.
Aussi pour l'intrigue.
C'est
toujours
très utile.
Pour l'intrigue.
Très, très utile.
Je ne parle jamais des couturiers, des designers. Non, c'est pour l'intrigue, tout à fait.
Oui, ou même comment faire en sorte que des appels avec le bon, quand une fois qu'on a des téléphones portables, on peut toujours savoir qui a appelé, comment on peut faire pour que ça ne soit pas possible, comment obtenir ces informations quand on n'est pas forcément un geek. Il y a ce genre de choses qui sont des petits renseignements de la vie du 21e siècle. Et surtout, ce qui me paraît le plus intéressant, c'est votre message, je ne vais pas dire message politique, mais la façon dont vous regardez les gens et la précarité des gens. Quand vous parlez de l'absence de sécurité sociale.
Ah,
et
oui.
Ça, vous en parlez à plusieurs reprises. Et ça, ce n'est pas pour l'intrigue. Ça marche pour l'intrigue, mais ce n'est pas que pour l'intrigue.
Ah, non. Je donne mon avis dans le cadre du roman. Mais j'essaie toujours de tisser une tendance sociale dans l'intrigue. Mm-hmm. C'est une fille dans l'intrigue. Parce que ça accroche l'histoire à nos jours.
Voilà, ça l'ancre. Ça l'ancre à un quotidien.
Oui. Mm-hmm. C'est vrai que la première chose, toujours, c'est pour créer les rebondissements et faire une intrigue qui semble très dans une vie normale qui nous reconnaîtront.
Oui.
Oui. Et toutes ces choses, je trouve que les détails très spécifiques, ça fait marcher mieux le...
Oui, ça donne une vraisemblance.
Oui, je crois.
Oui. Et oui, non, parce que on voit que la vie quotidienne n'est pas forcément facile. Il y a les artistes qui n'ont pas de sécurité sociale. Il y a des gens qui
Vous avez raison. Je parle de ceci parce que c'est une crise si terrible chez nous que ça force les gens de faire les choix incroyable de
un travail alimentaire.
C'est terrible. Et pour moi, j'ai choisi ça très délibérée, oui. Délibérément.
Voilà. Et après, il y a aussi une petite défiance par rapport à la police. Pas seulement la police de Saint-Thomas,
ouais.
Mais la police de Philadelphie et une plus grande confiance par rapport au FBI, comme si quelque chose qui était fédéral serait plus impartial qu'une autorité policière locale. Question de confiance. Est-ce que ça, c'est juste dans la tête de Sherby, ou est-ce que c'est un sentiment partagé par les États-Unis?
L'FBI était sur la scène quand sa fille est disparue. Mm-hmm. Et puis, c'est impossible pour la police à Philadelphie de s'intéresser à quelque chose qui se passait dans les îles Caraïbes. Mm-hmm. On ne peut pas gérer tous les crimes dans Philadelphie. C'est un cauchemar, les meurtres, les... le meurtre ou une mort accidentelle dans les îles Caraïbes.
C'est pas la priorité.
Pas du tout. L'FBI, je ne sais pas. Dans un sens, nous avons confiance dans l'FBI, surtout dans les enlèvements. Mm-hmm. L'FBI, certaines... pouvoir que la police d'une ville n'ont pas, mais c'était surtout parce qu'ils étaient sur la scène au moment du crime.
D'accord.
Et puis il me semblait plus raisonnable que l'FBI entre encore la scène parce que c'est un network,
un réseau
très grand.
Bon, il y a des choses sociales qui m'intéressent aussi dans la structure familiale, des histoires familiales qui sont... Ça peut être à la fois démographique ou psychologique. Normalement, on dit que l'âge de la maternité recule dans les pays occidentaux. Et vos héroïnes ont eu leurs enfants jeunes. Parce que Shelby a eu Chloé quand elle avait 18 ans et elle le raconte de façon complètement sans passion. Mais il y avait un client, il était sympa. Et nous nous sommes mariés. Et la Saint-Valentin, on n'était pas tout seul. Donc ça, c'est cette façon froide de le dire, ce récit de Shelby est vraiment... imparable, quoi. C'est... Et après, je me suis fabriquée toute seule, quoi. C'est un peu ça. Et c'est amusant parce que dans la génération suivante, ben, sa fille, elle a... puisqu'au moment du film, au moment de l'action, elle a 24 ans, elle a un fils qui a 4 ans et demi. Et donc, elle n'a pas profité de la sécurité matérielle où elle s'est rebellée quand même. Elle n'a pas fait d'études universitaires et elle a eu un. Elle a rencontré grand amour et elle a eu un enfant très tôt. Et ça, c'est pas typiquement américain, puisque là-bas, j'imagine que ça doit être comme en France, 28, 30 ans, l'âge du premier enfant. Pourquoi vous avez choisi d'avoir ces femmes jeunes, dans la force de l'âge, et déjà mûres parce que, bon, un secret, en France, à 20 ans, les filles sont pas, ou à 24, les filles sont pas toutes mûres.
Toutes mûres?
Mûres, monsieur.
Oh, ok.
Ça, c'est un peu...
C'était la première fois que j'ai eu une héroïne qui était grand-mère. Aux États-Unis, on ne veut pas lire des grand-mères, même les jeunes grand-mères. Mais j'ai eu confiance dans mes lecteurs en français. J'ai su qu'on peut imaginer une grand-mère jeune et attirante.
Ouais.
Mais il faut... faire la grand-mère assez jeune. Eh bien, j'ai créé son histoire parce que j'ai besoin d'une grand-mère jeune pour l'intrigue. Parce qu'elle est encore l'héroïne, elle doit avoir l'énergie et tout cela. Et
la résistance physique.
Je crois que vous êtes très dissous avec moi parce que beaucoup de mes choix sont simplement pour l'intriguer. Et dans ce cas-là.
La réponse est pour l'intrigue.
Oui, c'est pour l'intrigue. Mais sa fille, comme beaucoup des enfants, elle a voulu faire exactement l'inverse que sa mère. Mm-hmm. Sa mère a voulu qu'elle va à l'université, qu'elle suive une carrière et elle n'a pas voulu être comme sa mère.
Ouais.
C'est pas parce qu'elle n'aimait pas sa mère, mais les enfants sont comme ça. Et vraiment, j'ai pensé au fait qu'elle a eu son enfant très jeune aussi. Ça me donnait un peu de problème, mais enfin, j'ai dit, OK, sa vie est assez différente pour faire marcher.
Oui, parce que... Mais elle est quand même... Elle est enfant unique.
Oui.
Ce qui est finalement une bonne chose, parce que quand on voit de la façon dont la génération précédente, la grande sœur Talia, notre héroïne Shelby et le petit frère Glenn. Le petit frère Glenn, il reste petit frère ad vitam aeternam.
Oui.
Il a bientôt 40 ans, il a une trentaine d'années, mais bon, il ne veut pas grandir. Et vous parlez même de Peter Pan.
Il est basé sur mon propre frère, tout à fait. Il ne
faudra pas le dire.
Oui. Il est exactement comme mon frère.
Alors, il est perspicace. Il est perspicace. Il est intelligent. Il se gâche,
oui,
mais il est intelligent.
Il est intelligent et n'est pas un mauvais frère, mais pas très admirable non plus. Mais non, il est basé sur mon frère. C'était très simple d'écrire Glenn. Très simple pour moi.
Et on voit justement que bon, il est conscient de son apparence physique d'ado attardé. Il a un look d'adolescent,
oui.
De vieil adolescent.
Oui, parce qu'il était Peter Pan. Oui, on dit cela.
Voilà.
Il est Peter Pan. Il habite.
Il
squatte
chez
les
amis.
Une vraie habitation. Il est.
Voilà.
Oui,
mais
il y a beaucoup de jeunes hommes comme ça, j'ai remarqué. Mon frère n'est pas le seul.
Mais après, il n'a pas l'apparence physique pour qu'on le prenne au sérieux. Ça peut lui jouer des tours dans ses relations sociales. Parce que les apparences... je ne sais pas que ce soit une Lexus, c'est un symbole de statut social, comme le médecin possède une Lexus. Shelby possède un appartement avec qui contemple la rivière. Il y a des choses dans le statut social. Elle va porter du Ralph Lauren pour aller à un entretien avec son médecin. Il y a des détails de choses que l'on doit faire dans certaines circonstances. Sinon, on vous prend un peu pour un clochard. Et ça, vous le montrez bien. Quand Glenn est dans le monde extérieur et pas dans sa famille, du style, c'est qui celui-là?
Oui, j'ai choisi les. Quand il a acheté quelque chose à manger, je ne sais pas si ça traduit ici, mais il a acheté quelque chose de plus. Moins. Délicieuse, ouais. Très simple, très... saltines et Velveeta cheese, c'est des choses américaines.
C'est le degré zéro du fromage.
Mais il a essayé, il a fait un effort, oui. Mais c'est tous ces détails que j'ajoute pour créer une réalité pour les lecteurs.
Et ça
on
marche.
Peut imaginer. Oh oui, ok. Maintenant, j'ai une image de cet homme qui est plus important pour moi que la couleur de ses cheveux. C'est le fait qu'il a acheté le Velveeta cheese.
Oui.
Oui, ça c'est lui. C'est il fait sa façon de penser.
Oui. Et justement, vous ne donnez pas forcément une description complète de l'aspect physique de vos personnages. C'est au fur et à mesure que vous donnez les informations, vous nous laissez en haleine, justement, pas seulement avec l'intrigue, mais avec la construction des personnages. Par exemple, Darcy Fallon, l'institutrice. Au départ, bon, si on savait au début qu'elle s'appelait Fallon, on saurait qu'elle est irlando-américaine. Non, au début, elle est seulement Darcy. Après, bon, c'est l'institutrice, mais on ne connaît pas ses liens avec la famille. Ça se découvre au fur et à mesure.
Comment on découvre dans le vrai...
Voilà,
oui.
Il n'y a pas de tableau d'exposition. Hop, voilà le personnage, elle marchait comme ça, elle portait ceci, elle avait les cheveux comme ça, et elle parlait comme ça. Non, c'est au fur et à mesure, et ça c'est vraiment intéressant, parce qu'on on complète le personnage et on se trompe. Et c'est ça qui est bien.
Oh, merci. Oui, Shelby... quand Shelby fait sa connaissance, et puis... peut-être elle va disparaître après la première fois, mais quand elle la voit encore, oui, elle connaît son nom, et puis après, un peu de plus. Mais nous connaissons les gens comme ça dans la vie. Et, nous n'avons pas le CV le moment que nous rencontrons quelqu'un, mais nous demandons des questions.
Oui.
Et je fais un effort de présenter mes personnages de cette façon.
Oui. Alors, une chose qui m'intéressait aussi, c'était ce qu'on appelle la psychologie transgénérationnelle. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un destin dans cette famille? Est-ce que vous l'avez écrit comme ça, le destin de Estelle, la grand-mère alcoolique, mauvaise mère? Et pareil, comment dire, quand je dis pareil, c'est par petites touches que vous expliquez. Vous ne faites pas un monstre, puisqu'elle ne parle pas au départ. Ce n'est pas un monstre. Ce n'est plus un monstre. Et c'est juste par petits morceaux qu'on comprend qui elle pouvait être. Est-ce que cette femme a influencé sa petite fille? Est-ce que c'est à cause de sa grand-mère que la petite fille est alcoolique, ou l'a été, ou ne l'est plus? Est-ce qu'il y a un destin familial dans votre idée, quand vous écrivez?
J'ai créé la famille de Shelby après j'ai créé le problème de Chloé.
D'accord.
Parce que j'ai eu besoin de plus. J'ai eu besoin de quelque chose de plus riche dans un sens, parce que je n'étais pas contente. Est-ce que c'était son destin? Je ne fais pas les décisions comme ça. Ça existe et, et tout le monde le sait que souvent il y a un grand-parent ou une parente et les enfants ont le même problème, mais aussi de temps en temps, non. Je n'évite pas la question, mais j'essaie quand j'écris les personnages de ne juger pas, de ne forcer pas à mes lecteurs à penser ceci ou cela. Mm-hmm. On peut décider. Tout le monde connaît les gens comme ça. Mm-hmm. Et on peut décider pour eux-mêmes. Ça se passe. Je dis seulement, ça se passe dans la vie. On voit cela.
Mais même quand vous montrez cette famille qui fonctionne quand même pas très bien, vous pouvez avoir de l'humour. Moi, quand vous appelez la sœur aînée Dr. No, moi, ça me fait rire. Dr. No pour une geek. Et pas une geek jeune, en plus. Une geek qui est censée avoir 50 ans.
Ah ouais.
Donc, ça me fait rire. Parce qu'au début, on est là. Mais c'est pas possible. Elle sent pas. Elle sent rien. Elle est comment, cette Talia? Elle a un cœur. Et puis après, elle en a tellement pas que c'est marrant, quoi. Évidemment, bon, elle est un petit peu incompétente. Elle intrigue. On aimerait qu'elle ait un peu plus de mémoire si c'est une vraie geek.
Oui.
Mais il y a un humour dans au milieu de cette famille dysfonctionnelle. Vous avez de l'humour par rapport à vos personnages. Alors que Shelby, parfois, elle n'en a pas. Glenn en a beaucoup. Ils regardent leur sœur qui vraiment est irrécupérable, quoi. Ouais. À ce niveau-là. Mais elle est très gentille, finalement. Hein.
Oui, mais j'ai aimé bien cette remarque et je ne sais pas d'où il venait, mais vous avez raison. Il est un peu jeune pour Dr. No. Mais il semble que Talia, c'était une parfaite description de Talia, Dr. No. Et il me semblait que Glenn aurait dit quelque chose comme ça. Ouais. Et c'est un moment d'humeur, comme dans les frères, des sœurs. Même dans les pires situations, il y a souvent un frère dit quelque chose et vous voudriez. C'est normal. Les frères sont bons pour cela.
Les petits frères. Ouais. Ouais. Des remarques, des questions. J'ai la pêche.
Oh,
hein.
Il y a des questions, j'en suis sûre.
Oui,
merci.
Oui, est-ce que vous êtes monté, est-ce que vous avez fait une croisière sur un paquebot? Est-ce que vous êtes monté sur un paquebot?
J'ai du mal à comprendre.
Est-ce que vous êtes allé sur un paquebot? Un cruise ship?
Jamais. Et je ne vais pas jamais. Je ne vais jamais sur un paquebot.
Bon, ben, je crois que c'était un peu le mot de la fin. Si vous voulez passer un petit moment juste avec vos lecteurs qui voudraient une dédicace de dernière minute, on a juste un tout petit peu de temps. Je vous laisse avec eux.
Ok, merci. Merci beaucoup. Merci de venir ce soir.